Super. Bonjour à chacun, à chacune, et bienvenue pour ce culte qui vous est proposé ce matin en streaming. Comme vous le savez, nos autorités politiques et sanitaires ont suspendu pour l'instant les cultes en présentiel, et ce, au moins jusqu'au dimanche 29 novembre inclus. Pendant cette période, dans toute la mesure du possible, nous allons donc vous proposer sur cette plateforme un culte en streaming le dimanche matin à 10h. Et puis ce culte sera suivi, si vous le souhaitez, par un temps d'échange sur la plateforme Meet qui vous a été communiquée pour vous qui êtes membre de l'Église de Mérin par un actu Mérin. Si jamais vous souhaitiez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par les canaux qui sont précisés sur notre site internet. J'aimerais prier. Cher Seigneur, nous nous présentons devant toi, conscients de ta grandeur, de ta sainteté, de ta proximité aussi. Nous nous présentons devant toi, conscients aussi pour notre part de nos limites, des contraintes de la situation actuelle, de ce que cela implique pour nous au quotidien. Et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Je te prie de nous faire la grâce de ta présence renouvelée à nos côtés. Et je te prie tout spécialement pour celles et ceux qui sont malades, empêchés dans leur santé, pour celles et ceux aussi qui rencontrent des craintes, des difficultés au cœur de cette situation, rends ta présence sensible à leur côté. Nous mesurons également, Seigneur, nos privilèges. Nous sommes dans des pays libres, nous avons accès aux soins, nous avons accès à la culture, nous sommes libres de nos mouvements. Nous pouvons, comme chrétiens, te célébrer et nous savons que d'autres n'ont pas ces privilèges-là. Nous te prions tout spécialement pour ton Église persécutée sur la surface de la terre, en te demandant, Seigneur, de t'approcher de celles et ceux qui s'attendent à toi. Pour nous, pour ces quelques minutes qui nous attendent, nous voulons tendre l'oreille. Nous espérons, Seigneur, que tu vas nous parler par ta parole, par ton esprit. Et nous te prions de nous aider à entrer dans un temps tout en simplicité, mais de célébration qui t'honore. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour les quelques minutes qui sont devant nous, nous aurons l'une ou l'autre lecture biblique, un temps de méditation de la parole de Dieu, et puis il y aura des moments avec une expression chantée à laquelle nous vous encourageons de vous rallier. J'aimerais lire le psaume 1. Psaume 1. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Mais ce n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des justes. il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des justes, mais la conduite des méchants les mène au désastre. Pour le temps de méditation de la parole de Dieu, je vous invite à une lecture dans l'Évangile selon Marc, et nous lirons ensemble au chapitre 6, les versets 14 à 29. Marc 6, les versets 14 à 29. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Certains disaient: Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi il opère des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète, pareil à l'un des prophètes d'autrefois. Hérode entendait tout ce qui se racontait et il disait, c'est Jean le Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il est ressuscité. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le mettre en prison, enchaîné. Il l'avait fait à cause d'Hérodiade, qu'Hérode avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade détestait Jean et voulait le faire exécuter, mais elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme juste, qui faisait la volonté de Dieu et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna un banquet pour ses dignitaires, les chefs de l'armée et les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Ce que tu demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean le Baptiste sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui opposer un refus à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean le Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille et celle-ci la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Jusqu'ici, la parole de Dieu, aussi surprenante soit-elle. Le roi Hérode, celui des mages, celui du massacre des enfants de Bethléem, le roi Hérode a régné quelques années sur le tout petit territoire de la Galilée. Il fut en vérité un roitelet, plutôt qu'un roi. Il avait répudié sa femme légitime pour épouser la femme de son frère, une certaine Hérodiade. Ce fait ne devrait pas nous surprendre outre mesure. Nous sommes assez habitués à l'étalage de la vie privée des grands de ce monde, pas toujours édifiante. Il est dit que cette femme, Hérodiade, détestait Jean-Baptiste, verset 19, et qu'elle usa de toute son influence pour le faire périr, et cruellement. Elle finit par y aboutir, ce qui ressemble à la conclusion d'une tragédie grecque, la dernière séquence qui finit toujours mal. Le récit est considéré comme historiquement solide, fondé, parce qu'il est corroboré par d'autres sources, non bibliques, mais historiques. Seulement, Marc n'est pas un simple chroniqueur historique. Marc, qui nous rapporte cet épisode, Marc est un évangéliste. Il est donc préoccupé, lui, par la signification spirituelle qui s'attache aux événements. De toute évidence, l'exécution d'un personnage aussi considérable que Jean le Baptiste revêt une signification de ce genre, une signification spirituelle, ne serait-ce que parce qu'elle préfigure la passion de Jésus. Marc nous fait donc entrer dans un face-à-face entre le prophète Jean-Baptiste et le roi Hérode. Face-à-face classique dans l'Ancien Testament, si vous songez par exemple au démêlé d'Élie avec le roi Achab et surtout avec la reine Jézabel, ou encore à Ésaïe, conseiller malheureux des princes et des rois. Ce face-à-face est souvent tendu et dramatique. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que Jean le Baptiste est vraiment un prophète ? Après tout, on ne lit nulle part qu'il aurait gratifié Hérode d'une révélation particulière de la part de Dieu, ce qui est pourtant le cœur de métier du ministère prophétique. Nous apprenons plutôt qu'il lui a clairement fait la morale en mettant sa vie privée en face de sa conscience, verset 18, ce qui est bien dans le style de Jean le Baptiste. Et c'est que pour le prophète de la Bible, la parole de Dieu ne se distingue jamais de l'éthique. La parole de Dieu est inséparable en toutes circonstances de la quête de ce qui est juste. Parole de Dieu et justice marchent ensemble. Le monothéisme de Moïse repose sur une loi morale, sur des valeurs, dirait-on aujourd'hui. Et Dieu ne va pas sans la justice. Les deux sont inséparables. En même temps, les chrétiens d'aujourd'hui opposent parfois la loi et les prophètes. D'un côté, il y aurait des lois révélées, interprétées, détaillées, puis stabilisées, mises en institution par les hommes. Et de l'autre, il y aurait la spontanéité de l'inspiration divine surgissant ici et là chez des originaux qu'on appelle des prophètes. Mais cette opposition entre la loi et les prophètes, cette opposition n'a pas lieu d'être. La loi et la prophétie vont ensemble. C'est la même chose. C'est un seul et même trait. Quand le prophète exhorte le roi à la justice, il l'exhorte aussi bien au respect de la loi qu'au retour à Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. C'est pourquoi Jean-Baptiste incarne pleinement le prophète au sens de la première alliance. Il allie la loi, l'attachement à Dieu, avec les valeurs qui en découlent, la justice en priorité. En contrepoint, s'étale de façon assez extraordinaire l'indécision d'Hérode. Marc prend le soin de décrire la crainte du roi pour Jean-Baptiste. Cette crainte révérentielle que suscite l'homme de Dieu chez Hérode. Verset 20. Hérode est impressionné par la figure juste et sainte du Baptiste, chez qui la dimension éthique s'harmonise à la dimension spirituelle. Tout ce qu'Hérode n'est pas, mais qui précisément le fascine. La voix de Jean n'est pas à sa mesure, mais elle agit sur lui comme un miroir. Elle lui renvoie un reflet. Dans un premier mouvement, le roi le protège donc et l'écoute volontiers, lui demande même des conseils qu'il ne suit pas. Sa prédication le plonge dans d'interminables débats de conscience. Puis, verset 21, il le fait arrêter sur l'insistance d'Hérodiade sans savoir que faire de cet encombrant prisonnier. À l'occasion d'un banquet, il est manipulé par sa belle-fille, verset 22, sur ordre de sa mère, et Hérode se résout à faire exécuter Jean le Baptiste. Pourtant, cette exécution le déprime, le roi devint tout triste, verset 26. Son indécision générale l'amène à commettre la pire des injustices, le meurtre d'un innocent. Et Marc laisse supposer qu'Hérode s'en rend compte. Toujours est-il, en tous les cas, que son manque de courage est accablant. Hérode voit assez clair, il sent assez bien les choses, mais il n'a pas le courage de franchir le pas. Le pas qui consisterait, par exemple, à libérer Jean-Baptiste. Toute proportion gardée, cela fait réfléchir à nos propres réactions à l'écoute de la parole de Dieu. Nous l'accueillons volontiers quand elle va dans notre sens, lorsqu'elle conforte nos convictions, nos attitudes, lorsqu'elle nous rassure sur nos orientations, sur nos impressions. Nous l'accueillons tant qu'elle dit ce que nous aimons entendre. Mais lorsqu'elle se met en travers de ce que nous faisons, de ce que nous croyons, lorsqu'elle nous remet en question, lorsqu'elle vient nous combattre, comme l'ange vient combattre Jacob au bord du torrent, alors c'est une autre affaire. Parole de Dieu miroir qui nous renvoie notre visage, notre cœur, notre image déformée. Le courage peut alors nous manquer pour mettre en pratique ce que nous savons pourtant être juste, nécessaire, bien. Rien n'est plus ardu dans la vie que d'accomplir ce qui est juste. Rien n'est plus ardu que d'accomplir ce qui est juste. Du coup, c'est un éclairage cru qui est porté par l'Évangile ici sur toute l'ambiguïté du pouvoir humain, sur notre capacité à assumer ce pouvoir humain. Le pouvoir humain, ici politique, mais ailleurs économique, scientifique, religieux, que sais-je. Le pouvoir humain devrait être invariablement mu par le service ultime de ce qui est juste. Dans la compréhension chrétienne du monde, quand il est prêté, le pouvoir doit être mis au service de la justice. C'est bien là ce qu'exigent les prophètes des différents rois d'Israël, que leur pouvoir soit mis au service de la justice. Du pouvoir est mis à disposition des hommes et des femmes pour qu'ils agissent positivement sur la société et sur le monde. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Agis de manière juste avec la force que Dieu te prête. C'est aussi ce que demande Jean à Hérode. Agis de manière juste avec la force que Dieu te prête. Si le désordre règne dans la vie privée du monarque, qu'en sera-t-il dans son exercice du pouvoir? Voici pour l'idéal. Agis de manière juste. Sois aligné. Sois cohérent. Mais il existe toujours une possibilité que par indécision, faiblesse ou absence de courage, le pouvoir ne se trouve mis au service de l'injuste. Ainsi, Hérode est évidemment un homme sous influence. Il craint Jean, nous l'avons vu, mais il craint plus encore sa seconde femme, et il craint l'opinion publique favorable aux baptistes. Il est, on ne pourrait plus, populiste. Il est soumis à ses désirs les plus équivoques quand il satisfait aux caprices sanglants d'une jeune femme perverse. Et contradictoirement, il craint la punition divine parce qu'au fond de lui, il sait qu'il a mal agi. Pense-t-on cependant que nos pouvoirs à nous, modernes, si fiers dans nos démocraties, sont tellement plus à l'abri? Songez à l'influence des médias, à l'influence des sondages, à l'influence de l'audimat, des groupes de pression, de la rue, de l'argent, de l'égoïsme, des passions, de l'inévitable fantasme de toute puissance ou de complotisme, et ainsi de suite. Dans ces conditions, la quête de ce qui est juste, qui devrait animer toute personne assumant une parcelle d'autorité, se révèle aléatoire et si souvent décevante. C'est vrai pour les grands de ce monde. C'est vrai aussi pour chacun, chacune d'entre nous. Lorsque nous nous retrouvons en situation de pouvoir, fût-il minuscule ce pouvoir, dans nos métiers, dans nos familles, dans la société ou dans l'Église. Nous voilà mis à l'épreuve à notre tour, responsabilisés comme jamais. Pour tester la valeur de quelqu'un, il suffit de le mettre dans une telle situation de pouvoir et d'observer la suite. Est-il cohérent? Dans quel but, à quelle fin utilise-t-elle ce pouvoir? Au fond, malgré toutes les précautions. Le pouvoir humain reste ambigu par essence. Donc sa justice n'est jamais tout à fait sûre, n'est jamais garantie. On ne peut qu'y tendre, on ne peut que s'en approcher autant que possible. L'idéal, on ne l'atteint jamais, a dit un prophète, mais il nous sert de lanterne. C'est pourquoi on ne sera jamais sauvé par un idéal. Selon Marc, la prophétie classique prend fin avec la disparition de Jean le Baptiste. Il est un martyr de la loi. Commence alors un autre temps, celui de l'Évangile. Mais la fin de la prophétie ne signifie pas la fin de la parole. Jésus reprend le flambeau. La toute première action du Christ à l'orée de son ministère, c'est d'annoncer la parole. Ce qui nous tient au cœur, aujourd'hui encore. Rien ne peut faire taire la parole de Dieu. Rien ne peut la masquer, rien ne peut la confiner, rien ne peut la tenir éloignée. Aucun pouvoir, aucune puissance au monde ne le peuvent. La parole de Dieu est vivante, agissante et libre. Le service de la parole de Dieu peut exposer alors à la mort physique. Celle de Jean, celle de Jésus, celle d'une nuée de témoins, de martyrs, l'ONG Porte Ouverte nous le rappelle régulièrement. Et c'est là encore une preuve paradoxale de l'efficacité de la parole de Dieu. Même la mort ne l'arrête pas. Dans la lecture de ce jour, le véritable vaincu, ce n'est pas Jean, mais Hérode. Si les serviteurs de la parole sont fragiles, la parole, elle, ne l'est pas. Le flambeau tombé à terre un instant est repris par un autre. Dieu suscite du neuf, alors même que cela ne paraît pas pensable. Dieu suscite du neuf. On ne devrait pas l'oublier quand on spécule aujourd'hui sur l'avenir. Par-dessus notre existence individuelle, par-dessus toutes les fragilités, par-dessus les limites et ce qui s'éteint, Dieu poursuit un plus grand dessein que nous. Mais ce plus grand que nous, passe par nous, nous traverse. Chaque année, le temps de l'Avent et le temps de la Passion invitent à méditer sur ce dessein divin plus grand que nous, mais qui passe par nous. Il invite à regarder au-delà de notre existence individuelle, au-delà de nos fragilités, au-delà de nos limites. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Amen. Il me faut vous laisser avec quelques annonces. D'abord, vous remercier pour votre libéralité qui permet à notre Église de continuer son service. Vous trouvez sur notre site internet toutes les coordonnées nécessaires pour la faire vivre, cette libéralité, cette générosité. Soyez-en remerciés. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous vous proposerons encore un format de culte streamé. C'est Célina que vous retrouverez et nous démarrons dimanche prochain une courte série sur 4 dimanches avec le magnifique livre de Ruth. Une dernière annonce pour vous dire que de suite, après ce culte, nous aurons donc un temps d'échange sur la plateforme Meet, que nous puissions nous y retrouver pour échanger un peu, prier, partager suite à ce que je vous ai laissé à la réflexion ce matin. Nous prendrons ce temps dès 11h sur la plateforme Meet qui vous a été communiquée. J'aimerais que nous puissions nous quitter, si l'on peut dire ainsi, en disant ensemble, vous derrière votre écran, moi ici, mais ensemble, la belle prière que le Seigneur nous a laissée. Et puis je terminerai par quelques mots de bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous souhaite à chacun, à chacune, une belle semaine, malgré les circonstances qui nous contraignent. Que la grâce de Dieu vous soit sensible, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous renouvelle. Puisez vos forces en sa parole et n'oubliez pas, nous sommes des frères et sœurs ensemble. N'hésitez surtout pas à nous contacter si un besoin se fait ressentir. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Je vous souhaite à chacun, à chacune, un bon dimanche et une belle semaine. À bientôt. Ça va? Merci Ashley.